Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie, comme chaque semaine, de Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour. Bonjour.
François Genet.
Bonjour.
Et comme de temps en temps, on a des gens avec nous pour nous parler de différents sujets et qu'on a eu la chance de l'avoir avec nous pendant tout le Festival du cinéma du monde, on retrouve aujourd'hui Julie Desmarais qui est avec nous pour nous parler de films. Bonjour Julie.
Bonjour.
En fait, de films, évidemment, de musique de cinéma, de musique de films plus précisément, oui. Donc tel qu'annoncé auparavant. Donc voilà, justement, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la saison des super-héros qui commence. En fait, je dis aujourd'hui, mais ça fait quand même un certain temps que c'est commencé.
Oui,
et bon, ben oui, ben non, mais dans l'année, il y a toujours plein de films de super-héros qui sortent. Là, on a eu Captain Marvel, bon, bref, je sais pas pourquoi. Les films de super-héros sortent tous vers le printemps, début d'été, dans ce coin-là. Et ben justement, François va critiquer le film Shazam. Julie, elle, va nous parler de musique de film, ou plutôt nous faire écouter de la musique de film de super-héros pour rester dans la thématique de la période de l'année. Et dans la deuxième partie de l'émission, donc on fera ça. Sinon, Mélina, tu vas nous parler du film Rémi sans famille, qui avec Daniel Auteuil, donc une version assez différente du dessin animé des années 90. Hein. Et sinon, de mon côté, je vais vous parler du film Tanguy, Le Retour. Tout ça un peu plus tard dans l'émission, mais d'ici là, quoi de neuf, François?
Eh, mon doux. Ben, écoute, Netflix, on parle de Netflix à chaque émission. Et moi, comment ne pas parler de Netflix? Fait que je vais continuer à parler de Netflix un petit peu. Je suis tombé là-dessus. Les droits d'auteur, c'est quelque chose de plus en plus intéressant. On se pose beaucoup de questions en ces temps de Netflix et de Spotify aussi, au niveau de la musique, pas juste au niveau des films. Et il y a plus de 200 000 créateurs qui se sont unis récemment pour faire un manifeste pour dire « là, il faudrait qu'on se réveille parce qu'il faut réviser les lois sur les droits d'auteur ». Et donc, au Canada, ils disent qu'il y a beaucoup d'exceptions qui permettent aux utilisateurs justement de passer par-dessus les droits d'auteur. Et donc, on n'aura plus d'art si on continue de faire ça. Donc, je trouve ça quand même une lecture intéressante et pertinente à faire. Donc, vous pourrez aller voir ça sur Une vie sans art, vraiment. Et il y a tout plein de trucs là-dessus. Donc, je pense que c'est intéressant quand même de s'informer sur le sujet puis de rester à jour là-dessus. Donc,
effectivement.
Allez voir ça, c'est d'actualité présentement.
Tout à fait. Ça risque de l'être encore plus dans les prochaines années.
Oui.
Merci beaucoup. Mélina.
Oui, en fait, moi, j'ai appris de source sûre, en fait, que Rami Malek, qui interprétait le rôle de Freddie Mercury dans A Bohemian Rhapsody, a annoncé qu'il interpréterait...
C'est ma nouvelle, ça!
Ah, mon Dieu!
Oui, oui, vas-y, vas-y!
Il va interpréter le prochain méchant dans James Bond! Donc, voilà, on sait aussi que Daniel Craig il a finalement accepté de reprendre son rôle et que le film est attendu pour avril 2020.
Et il y aura aussi l'actrice Léa Seydoux, qu'on a vu dans le dernier, je pense. À côté de Daniel Craig, qui va être présent. Donc, puis Daniel Craig, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'acteur qui jouait dans Bohemian Rhapsody, qui jouait... voyons, j'ai un blanc de mémoire, Freddie Mercury.
Oui, mais c'est pas Daniel Craig.
Daniel Craig.
Oui,
c'est un sacré Daniel Craig.
C'est
comme un caméléon.
Ben voilà, absolument tout. Donc voilà, mais merci Mélina pour ta nouvelle. Bon choix de nouvelle.
Ben oui, toi aussi, hein, voilà.
Il y a du plagiat à Cinébrunch.
Les droits d'auteur, faut y penser.
C'est ça, c'est ça. Merci, Julie.
Eh bien moi, dans la thématique musique de film, je vais vous inviter à vous présenter à la Maison du cinéma dimanche le 5 mai à 13h, où il y aura l'événement Les plus belles musiques de film avec Isabelle Nguyen-Noilly, qui est une soprano, et M. Enzo Da Rosa, pianiste, qui vont nous faire partager en fait leur passion des films, vous raconter des anecdotes, mais aussi ils vont performer live sur scène avec des extraits de films.
Ah, ça va être bien, ça.
Oui, et donc on s'attend à voir quelques extraits de Star Trek, La Dolce Vita, Parfum de femme, Fabuleux Dessin d'Amélie Poulain, entre autres.
Wow. Donc, ça veut dire qu'ils vont mettre un piano et des instruments sur
mais en tout cas, c'est ça qu'on m'a dit.
À moins que ce soit de la musique à bouche qu'ils fassent.
Oui, c'est ça. Il part un enregistreur.
Oui, peut-être. Lui, c'est comme je suis musicien. Il fait plaisir.
Il fait plaisir. Mais c'est ça. Donc, le billet coûte 20 $ et on m'a recommandé fortement à la Maison du cinéma de les acheter d'avance.
Ça laisse pas beaucoup de temps, mais d'accord. Mais tant mieux s'il en reste. reste. Hein? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Julie. Et de mon côté, heureusement, j'avais une nouvelle de secours, hein, de sécurité. Bref, moi, je vais vous parler d'une nouvelle peut-être un petit peu plus triste. En fait, on a appris la mort de Jean-Pierre Mariel, le comédien français, qui est mort cette semaine à l'âge de 87 ans. Parmi ses films notables, bon, Tous les matins du monde, Que la fête commence, Dupont-la-Joie et Coup de torchon. Donc, un acteur français avec une voix vraiment particulière, une voix grave. J'ai pas d'extrait, malheureusement, mais... un personnage, un grand personnage du cinéma français qui disparaît, qui a fait énormément de théâtre aussi. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles et c'est le moment de votre Cinébrunch! Et Mélina, tu sais, comme j'aime couper ta parole sans le vouloir, semble-t-il que tu avais une deuxième nouvelle, hein? Tu aurais donc pu ne pas prendre la mienne.
J'aurais donc pu, mais je voulais quand même...
C'est tellement plus le fun,
c'est comme ouais, ça. C'est ce qu'on dit.
Du drame. Oui. Donc, pourquoi se priver de ce plaisir-là? Oui. Non, en fait, j'ai appris et ça de façon complètement fortuite sur Instagram. Que, en fait, pour les jeunes, hein, ceux qui sont fans de la série Jeunesse Le Chalet qui était diffusée à VRAC TV, qui est en train de terminer, ben, on a appris cette semaine que Catherine Brunet et Antoine Pilon, ils sont présentement en tournage pour une nouvelle série qui s'intitule Faux départ. Et c'est réalisé donc par Marie-Claude Blouin, qui a également réalisé et produit Le Chalet. Et c'est écrit par Jean-Philippe Baril-Guérard, qui tenait un rôle secondaire dans Le Chalet, mais qui a aussi écrit des livres. Deux livres, entre autres, que j'avais bien aimés, parce qu'il aime bien mettre en vedette des anti-héros, donc ça donne c'est un feeling complètement différent. Donc on dit que ça va être une comédie anti-romantique. Oh. Donc j'ai bien c'est hâte de voir ça. Oui, quand c'est même, ça, hein? Quand même. Ouais.
Ça, c'est le monsieur qui fait de l'escalade, là.
Il fait aussi de l'escalade puis des voix à Radio-Canada, mais bon, c'est ça. Moi,
un homme polyvalent.
C'est ça. Non, ça c'est un autre type de livre, fait que je m'attends à un autre type de série, donc quelque chose d'intéressant à voir à l'automne.
Bon, excellent. Ben merci Mélina, mais c'est pas pour ça qu'on est là, hein, parce que l'émission est déjà bien entamée. En fait, tu vas nous parler, tu as été voir pour nous le film Rémi sans famille. Est-ce que c'est bien ça le titre? Je suis même pas certain.
Mais je crois qu'ici, il s'appelle Les aventures de Rémi, mais le titre français était Rémi sans famille. Bon. Parce que c'est un film français, en fait. C'est adapté aussi d'un roman français qui s'appelle Sans famille, le roman d'Hector Malot, qui a été publié en 1878. Donc, c'est une histoire qui a déjà été adaptée en série et en film. Pour les plus vieux, hein, vous vous souviendrez peut-être de l'adaptation japonaise qui a été diffusée sur les ondes de Radio-Canada à partir de l'année 1983.
C'est un dessin animé.
Je fais encore des cauchemars. Ouais.
Ouais, ah oui, tu l'as, oui. Ça t'a marqué, ça.
Et mon doux.
C'est vrai?
Non.
Tu te reconnais dans le personnage ou non?
Comment
non.
Oublier? Non.
Mais tout le monde a la petite chanson, là. Je m'appelle Rémi. Ouais. C'est vrai. Bon. Oui, ouais, donc c'est ça. Fait qu'il y a eu plusieurs adaptations. Il y a eu d'autres, donc de nombreuses séries, de nombreux films. Moi, j'en ai pas vraiment vu aucune. Je connais parce que culture populaire, mais sinon, je vais pas pouvoir vous faire vraiment de comparatif au niveau de l'histoire. Est-ce que ça ressemble pas? Ça, je peux pas vous dire vraiment. Mais bon, on va quand même parler du film. Donc, ça a été réalisé par Antoine Blossier, qui a décidé, justement, c'est ça, de faire une nouvelle adaptation du roman avec Daniel Auteuil.
Oui, j'adore Daniel Auteuil.
Oui. Aussi. Ludivine Sagné, Virginie Ledoyen, Jonathan Zakaï et on a le jeune Malôme Paquin qui interprète le rôle de Rémi, en fait.
Un ami de François...
un homme du monde, moi. Je...
Ah oui, il connaît tout le monde.
C'est ça. Donc, c'est l'histoire du jeune Rémi, donc un orphelin recueilli par Madame Barberin. À l'âge de 10 ans, son père adoptif décide de l'amener à l'orphelinat car ils n'ont pas assez d'argent pour le nourrir. Mais il sera finalement loué à M. Vitalis, un saltimbanque qui se promène de ville en ville avec son chien et son petit singe. Et Rémi va donc partir à l'aventure avec cette petite troupe. Donc, on va aller tout de suite écouter la bande-annonce.
Je m'appelle Rémi.
Vitalis, monsieur Vitalis, artiste ambulant. Vous connaissez déjà Capi, le petit mécontent là, se nomme Joli Cœur.
Approchez les enfants, car le spectacle que nous allons vous présenter est reconnu pour être le plus extraordinaire de France.
Je t'ai loué à Barberin pour chanter.
Devant des gens?
En effet.
Je vous avais dit que j'y arriverais pas.
Mais tu as le trac, c'est normal au début. Tu as un don, Rémi. celui d'émouvoir ceux qui t'entendent.
Alors, on peut dire que la comptine s'est quand même améliorée là, depuis. Là. On a enlevé les paroles, mais c'est pas la même chanson hein, que Rémi. Je m'appelle Rémi, non?
Non, ah, okay. Non.
Bon.
Non. Non, ah c'est oui. Mais c'est un drôle de film, hein, Rémi sans famille, ben, les aventures
drôle,
de Rémi.
Drôle
de
film. Dans, sens, dans quel sens?
J'ai ri tout le long.
Oui. Dans le sens que c'est un film étrange, il faut okay. s'accrocher. En, ah, ouais. Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, là, il faut s'accrocher parce que les pires scènes sont celles du début du film. C'est là où le jeu des acteurs est vraiment très ordinaire, principalement des acteurs secondaires. C'est sûr qu'au moment où Daniel Auteuil y arrive, ben là, ça décolle, puis là, le film redevient, devient meilleur. Mais c'est une drôle de réalisation aussi, réalisation que j'ai trouvée un peu étrange, un peu boiteuse. Mm. Des fois qui ne donnait pas dans la crédibilité, mais on finit par comprendre que lui, le réalisateur, en fait, n'avait pas vraiment un souci de la crédibilité comme on peut avoir dans d'autres films. Ouais. Mais ça reste, ça va en s'améliorant, en fait. Donc, c'est quand même pas si pire. Il faut ouais. vraiment s'accrocher, je vous le dis, parce que moi, les 15 premières minutes, j'étais prête à arrêter le film puis à partir.
Oh, quand même.
Mais,
t'as un pouvoir sur le cinéma. Nous, à Cinébrunch, on a une place à signer, on oui. a une télécommande, hein, on peut arrêter le film quand on veut.
Oui, c'est ça.
On change la langue aussi.
Mettre sur pause.
Oui,
c'est bien pensé.
Fait
que finalement, les crédits, c'est la meilleure partie du film. C'est ça,
en fait.
Parce que là, on attend plus longtemps.
Non, ça va s'améliorer, mais il y a une chute à la fin.
Il y a une chute à la fin.
Ouais. Mais ça reste un film qui est quand même touchant. Je vous dirais qu'il est bon pour toute la famille. C'est un film vraiment familial qui va sûrement plaire aux enfants. Du moins, je pense que ça va plaire aux enfants. C'est un film pour moi qui va facilement tomber dans l'oubli après, dans le sens que ça m'a pas marqué. Même s'il y avait quand même des bons points dans le film, là, notamment la musique du film que j'ai trouvée très belle. Surtout la scène où Daniel Auteuil se met à jouer du violon. Ça, c'est vraiment une super belle scène. Je veux dire, je pense pas que c'est lui qui joue le violon pour de vrai. Là,
non,
mais,
effectivement, j'en doute fortement.
Mais c'est très bien fait. Des belles images, un paysage qui reste quand même magnifique dans le film parce qu'il se balade, il se promène, donc on voit plusieurs paysages différents. Ça donne donc une belle poésie, je trouve, au film quand même. Mais c'est ça. Donc, comme je disais, je trouvais que le style de réalisation était un petit peu particulier dans le sens que les ellipses sont drôlement faites. Puis c'est ça dans le sens que c'est comme des ellipses dans des scènes qu'ils devraient pas avoir. Puis là, tu te dis, pourquoi t'as mis ton ellipse là? Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. Je sais pas. Toi, Jim, t'en as pensé quoi du film?
Ben, moi aussi, je l'ai vu. Oui, ben moi, je suis comme ça. Hein. Oui. Je me faufile. Je m'assois juste à côté de toi ou derrière toi dans la salle du cinéma. Et voilà.
La prochaine fois, je vais regarder derrière moi c'est pour voir
si... Non, jamais de chance. Ouais, ça pourrait être moi. Jamais. Donc oui, moi, honnêtement... un peu comme Mélina, je suis pas convaincu de ce film-là. Il y a des très beaux moments, des moments très forts dans le film, qui se tiennent pas trop entre eux. J'ai trouvé personnellement, bon, contrairement à ce que tu dis, que tout ce qui était musical était pas très réussi à mon goût, parce que bon, on entend des instruments qui sont pas là.
C'est vrai. Donc que c'est
un peu bizarre. On sent qu'on met un disque, là. Ouais. On sent qu'on met un disque. Et donc, bon, OK, quand quelqu'un joue un solo de violon, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait tout un...
toute l'orchestre
complet de cordes qui joue en même temps. Ça m'a un peu dérangé. En même temps, je comprends que c'est pour faire avancer l'histoire. Oui, mais... Tu sais, on le fait une fois, mettons, dans le climax du film, à la limite, mais trop
souvent...
Pour toi,
ça a été une corde sensible.
Ben oui, puis quand le petit garçon chante, c'est extrêmement beau, la voix est superbe. Sauf qu'il y a comme un chœur en arrière qui fait des back vocals. Ça...
Mais c'est ça,
ça
c'est la crédibilité,
là.
Hein? La crédibilité n'était pas importante pour le réalisateur.
Non, mais je pense que c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que c'est un film pour enfants? Est-ce que c'est ça le but? Si oui, c'est rough en maudit pour un film pour enfants. En tout cas, je dirais rien, là, mais vers la fin du film, c'est pas drôle. Mm-hmm. Et pourtant, le reste du film est un peu enfantin. Donc, c'est comme embêtant,
le
en fait.
Le public
si je me rappelle
les
petits bonhommes de Rémi quand on était jeune, c'était pas drôle non plus. Là.
Non, c'est ça. Mais peut-être qu'on a gardé...
C'était dans la même catégorie que des méthanes.
Oui, ou même le petit castor. Ouais. Je veux dire, effectivement, il y a une époque où on faisait des... On ménageait moins les enfants, disons, sur l'émotionnel.
Oui, bien, toutes les Disney, les Rois Lions.
Oui, absolument.
La mère, elle meurt tout le temps.
Ben, c'est
triste,
ça. Oui.
Effectivement. Mais dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Mais dans tous les cas, ce film-là m'a accroché beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est Daniel Auteuil, tu sais. Mm-hmm. Daniel Auteuil, ben, pas qu'il a réalisé, là, dans ce cas-ci, il joue dedans. Mais le problème, c'est que Daniel Auteuil aurait pu porter sur lui le film complet ça aurait été probablement meilleur, mais bon, c'est pas, il pouvait pas être Rémi, tu sais, que c'est un peu vieux, tu sais, ça aurait mal passé. Ouais. Bon, hein, c'est ça. C'est sextagénaire.
Oui, ça prend bien du maquillage.
Sans famille.
Mais ça aurait pris des prix pour le maquillage, ça avait réussi.
Peut-être, effectivement. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Et on voit qu'il y a un gros potentiel de jeu qui se restreint. On sent qu'il veut pas porter le film. On sent qu'il veut laisser la place. Et ça fait en sorte que ça étouffe un peu la fougue. Daniel Auteuil, qui normalement est un one-man show. Là, mm-hmm. C'est ça. Moi, je veux dire, on l'a vu il n'y a pas si longtemps dans Le Brio. C'est des films où juste lui tout seul est suffisamment captivant pour que même si, à la limite, l'histoire n'était pas si intéressante que ça, on est complètement dans le récit. Mm-hmm. Alors que là, c'est pas ça. Puis, bon, moi, les affaires des animaux, puis tout ça, je trouve ça un peu quétaine. Bon, Mina, je sais qu'elle a fait des petits bruits durant le film. Oh!
Donc, les animaux, c'est tout le temps cute, mais...
Ben, c'est sûr.
C'est pas juste ça, je veux dire, je me souviens, moi, puis Jim, on s'est lancé un coup d'œil parce que tout d'un coup, il arrive à Londres, puis là, il parle français, mais avec un accent... Oh. Je veux dire, c'est juste bizarre.
Ouais, ouais.
Venez ici, mais... Pourquoi vous parlez français tout court?
Ouais, c'est ça. C'est pas si tu parles avec un petit accent anglais qu'ils vont
c'est
comprendre.
C'est ça, là. Fait que ça fait pas doublage, parce que là, tu prends l'accent. En tout cas, c'est des petites choses, hein. J'ai l'impression que c'est peut-être un réalisateur qui est nostalgique d'une autre époque. Parce que ça, c'est un film qui serait sorti dans les années 80-90, ça aurait passé sans aucun problème. Mais aujourd'hui, avec les standards qu'on a, avec les habitudes de crédibilité de réaliser dans les films, ça ne marche plus, donc voilà. Mais est-ce que tu as donné une note à ce film?
J'ai pas encore donné une note. Moi, j'y donnerais un 5.5 sur 10.
Ah, mon Dieu, OK, c'est un violent coup de...
Ben non, mais 5.5, ça reste quand même
c'est
bon.
C'est quand même médium.
C'est ça.
Okay.
5.5, 6 environ, là.
Je dirais 10 que ça. Si tu regardes la note plus longtemps, t'imagines des cordes en arrière, puis d'autres, puis là, ça monte la note.
Oui, ben moi...
C'est dans l'imagination.
Moi, le lobby du 7 est extrêmement fort chez moi ces temps-ci. Donc, moi, je donnerais un 7, honnêtement.
Quand même.
Il y a des défauts, mais si on fait abstraction des défauts, on voit ça comme un film pour enfants un peu, puis je me mets à la place d'enfant qui regarderait ce film-là.
Ça.
C'est comme le Roi Lion pour eux. C'est, oui, il y a des côtés tragiques, mais ça demeure de la résilience, ça demeure une autre vision du monde. Puis il y a des moments où, on n'entre pas dans certains clichés, et ça, j'ai trouvé ça agréable et réussi à mon goût.
C'est vrai, donc, c'est bien vrai.
C'est pas mauvais. Mais moi, j'aurais donné un 7, mais c'est correct, tu as le droit. Hein, c'est 5.5.
Ça, c'est un film pour toute la famille, Les Aventures de Rémi, un film qui va pas vraiment marquer personne, mais qui est un bon divertissement quand même.
Ben voilà. Ben merci beaucoup, Mélina. C'est le moment où François va sauter dans le vif du sujet des super-héros et nous parler du film Shazam qui a été voir, mais j'ai l'impression qu'il va nous parler pas mal plus que du film Shazam.
Oui, ben on entre dans un univers, là. Je vais commencer par vous parler un peu du film Shazam, puis après ça, on va répondre à tous les questionnements que je vois présentement dans vos faces d'auditeurs. Oui, tout à fait, j'ai des bons yeux. Alors, Shazam, c'est un film du réalisateur David F. Sandberg, avec des acteurs quand même qu'on connaît, Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel... Martha Millens, Grace Fulton et on en passe beaucoup, Jake Dallin Grazer, puis en fait, c'est ça, il y a beaucoup de monde aussi, des figurants, toute la patente. dans le fond, ça, c'est un film de super-héros. Billy Baston, un gamin débrouillard de 14 ans qui vit dans une famille d'accueil, qui rencontre un vieux sorcier du nom de Shazam, qui cherche à transmettre ses pouvoirs à un successeur qui va avoir des bonnes intentions et un cœur pur pour être capable de maîtriser les 7 péchés capitaux. Ça fait tellement de trucs dans une bonne phrase.
Oh mon Dieu, OK, mais il y a du religieux là-dedans. Il y a...
Les 7 péchés capitaux, c'est à leur rapport à la religion.
on les a représentés par des formes de monstres, des bestioles qui te mangent la face. Fait que ça, c'est les 7 péchés capitaux. Fait que Billy, ouais, c'est ça, la face de la gourmandise, on a toujours voulu savoir à quoi ça ressemblait la gourmandise. Ça. Ben, mon doux, c'est pas ma face, c'est représenté dans le film Shazam. Billy recevra les pouvoirs du sorcier Shazam et va devenir donc un ado au corps d'adulte parce que dès qu'il dit Shazam, il se transforme en super-héros grandeur nature d'un super-héros. Et là, donc, il faut qu'il essaye de maîtriser rapidement le plus possible ses pouvoirs pour être capable de combattre les forces du ténèbre du docteur Tadus Sivana. Donc, va-t-il être capable de... C'est la question du film.
La question.
De les maîtriser assez rapidement. Donc, on peut aller écouter la bande-annonce tout de suite pour se mettre dedans.
C'est un truc de fou, hein?
C'est quoi tes super pouvoirs?
Mes super pouvoirs? Je sais même pas comment pisser avec ce truc!
T'as une force surhumaine! Tu peux aussi voler? Ça va? Pourquoi tu dis rien? Tu résistes aux projectiles!
Je suis super pare-balles!
Vous êtes mort.
Désolé pour votre vitrine et me remerciez pas de vous avoir sauvé des voleurs!
Non, tiens, ça va vous? Moi je suis un super héros.
Voilà.
Quand même, hein? on sent que c'est pas un super-héros comme les autres.
Non. On sent que c'est un enfant qui
est... Oui, exactement. Qui est dans un corps de grandeur nature, tout à fait. Ça va rester. Et c'est ça l'affaire, c'est que là, je vais vous parler un petit peu de Shazam, parce que je pense que les gens... Est-ce que vous connaissiez Shazam avant ce film?
Mais moi, je connais l'application.
L'application, oui.
Je me suis demandé s'il n'y avait pas une référence à l'application durant le film.
Non. Ah, on sait parce qu'en fait, c'est que...
Ça
date d'il y a ultra longtemps. En fait, au départ... Il s'appelait pas Shazam. Il s'appelait, et le retenez-vous assez bien, il s'appelait Captain Marvel.
Hein?
Quoi?
Et mais oui. C'est pas DC?
C'est ça la patente, OK?
Wow,
c'est capoté. OK, on pourrait passer des heures à parler de ça.
Je suis complètement...
Je te dis, c'est magique. Il s'appelait Captain Marvel, et là, il avait exactement les pouvoirs de Superman à peu près. Tu sais, il était à peu près dans un saut rouge, il avait des super pouvoirs à peu près comme Superman. Fait que là, les gens de Superman se sont mis à actionner Captain Marvel. Le Captain Marvel avait super des bonnes vues, puis tout le monde achetait les BD. Ah, ouais. Et là, à un moment donné, ça a tout arrêté parce que justement, ils ont été obligés de payer des droits en disant bon, on va arrêter les frais d'avocat puis tout le kit, on va juste
parce que
payer.
Marvel Comics était né.
Non, même pas.
Superman qui les poursuivait.
Oui, exactement.
Ça, c'était pas du tout lié à DC.
Non, c'est dans le temps de Fawcett Publication, puis dans ces années-là.
OK,
là,
Superman
est ultra loin. Là.
Vu qu'il volait et tout ça. C'était...
C'est ça. Donc, il disait c'est de la copie. Mais au final, maintenant, on sait que tous les super-héros quasiment font ça. Mais c'est ça. Mais là, dans le temps, c'était d'actualité. Et là, ils ont donc arrêté de faire du Captain Marvel. Et là, après ça, quand Marvel est arrivé, tout d'un coup, là, ils ont dit « Ah, là, on va reprendre Captain Marvel » parce qu'ils sont allés voir que dans le temps, eux autres, il y a le trademark, on parlait de droit d'auteur tantôt, et tu vois tout ça penser, parce que eux autres, ils avaient mis un trademark sur l'histoire, mais pas sur le nom. Fait qu'ils avaient le droit de reprendre le nom. Fait qu'ils ont repris le nom pour vaguer sur le Captain Marvel.
Fait que la fille Captain Marvel qu'on a été voir au cinéma récemment, ça, ils ont juste volé le nom.
Ils ont pris le nom, ça c'est ça. Puis Stan Lee, après ça, puis tu le quittes, ils ont recréé une histoire avec ça. Et c'est donc pas le même Captain Marvel.
Incroyable.
Mais là, donc après ça, quand DC a dit « Oh, on va repogner Captain Marvel,
ils
mais le Shazam. » Ils ont été obligés de changer le nom. Puis là, comme le sorcier s'appelait Shazam, ils se sont dit « Ben, on va l'appeler Shazam.
Okay. »
Fait que c'est comme ça un peu, pour faire une histoire courte, que tout ça est arrivé comme ça.
C'est incroyable.
C'est quand même incroyable, pour vrai, on pourrait en parler vraiment longtemps. Mais donc, Shazam, en passant, moi, je me suis demandé d'où c'est que ça sortait, ce nom-là. En fait, c'est un acronyme. Donc, parce que, dans le fond, ça représente toutes les forces et la puissance que Shazam, le sorcier, donc la sagesse de Salomon, la force de Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse Archille,
et non pas le talon d'Achille
et non pas tout à fait et la vitesse de Mercure. Donc ça fait Shazam pour Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercure.
Ils ont été chargés ça loin là.
Et tout à fait, ça c'est fou. Fait que là déjà là, on est capable de comprendre un petit peu plus pourquoi ils l'ont sorti en même temps Captain Marvel, le film. Parce que Captain Marvel est présentement en cinéma, parce qu'il y a encore une guerre entre les deux Captain Marvel.
C'est incroyable, ça!
C'est tout ça, et je dormirai plus pour des mois. Et pour vrai, c'est magique. Donc tout ça, c'est pour un petit peu comme présenter Shazam. Et maintenant, ce que j'ai pensé du film, pour vrai, c'est un film qui est ultra drôle. Je pense qu'on l'a déjà vu dans la bande-annonce. C'est un film qui est très drôle et qui est différent. Puis souvent, quand on a des films, par exemple, qui parodient le style, c'est pas le premier, tu sais, un peu, qui essaie de parodier des films de super-héros, mais souvent, on est que dans la parodie. Tu sais, on est très, très poussé dans le comic. Puis là, ce qui est le fun, c'est que c'est un vrai DC, là. C'est un vrai film de super-héros. Donc, il y a des gros moments où tu te crois vraiment comme dans un film de super-héros. Tu as les scènes d'action que tu veux quand tu vas voir un film de super-héros. Et en même temps, t'as des moments où après ça, ils mettent la scène après. Tu sais, mettons, le méchant arrive, il détruit du monde, il prend l'ascenseur. Puis normalement, dans un film normal, la scène arrêterait là, puis on switcherait scène. Là, tu le vois après ça dans l'ascenseur, puis là, t'es avec la petite musique, puis là, voir comment le méchant, il est comme, il vient de faire un gros move, mais après ça, ça là, là, il est là, puis il entend des petites voix, puis là, bonjour, vous êtes dans l'ascenseur. Puis, tu sais, ça vient casser un peu le rythme. Ça, je trouve ça vraiment cool de voir un peu, c'est vraiment un film de super-héros, mais avec, une fois de temps en temps, des références, puis on sort un peu, puis on rit un petit peu du style de super-héros, une fois de temps en temps. Mm-hmm. Fait que je trouvais ça rafraîchissant comme twist. Ce n'est pas que la parodie, mais ce n'est pas juste un film normal, traditionnel. C'est une belle twist, c'est rafraîchissant. Et il y a aussi plein de petites... pour les connaisseurs de films de super-héros, on parle beaucoup de Superman, on parle beaucoup de Batman, on parle beaucoup de plein d'autres super-héros aussi. Donc ça, c'est intéressant pour les fans, mais même pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quand même, on est quand même capable d'apprécier le film, pour vrai.
Okay.
Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Ils ont été capables de faire un beau mix entre c'est accessible pour tout le monde et en même temps, en plus de tout ça, ben il y a des trucs intéressants pour tout le monde et même les grands fans de super-héros. En passant, restez jusqu'à la fin parce qu'ils ont mis des trucs jusqu'à la fin.
Après le générique.
Okay. Même quand le générique est terminé, restez là dans la salle. Moi, j'adore regarder le générique jusqu'à la fin et j'ai été surpris de voir qu'il y avait quelque chose et j'adore ça quand ils font ça. Et donc, peut-être, qui sait qui va avoir d'autres Shazam et qu'on va
est-ce
continuer.
Est-ce qu'une nouvelle franchise, peut-être?
Ben, si Captain Marvel...
Dans le très humoristique.
Ben, si Captain Marvel continue, il faut bien que Shazam continue.
Ben oui, c'est son alter ego. Est-ce qu'ils vont un jour se rencontrer? Qui sait? Est-ce qu'un jour, il y aura... Maintenant qu'on aura fini le Marvel Cinematic Universe, peut-être qu'il y aura éventuellement DC versus Marvel.
Oui.
Ah, je suis complètement...
Et on est sur le bout de...
Tout est dans tout.
Donc, je donne un 8.5. Très bon film.
Donc, un bon film.
Allez voir ça. C'est drôle et de l'action en même temps. Le mix... Parfait.
Ça donne le goût.
Parfait. Ouh! Pardon.
Et ça t'a surpris. C'est Shazam.
Je finirai avec une blague. Comment on appelle ça? Un super-héros qui mange du chocolat?
Comment?
Un super-héros rocher?
Oh! Oh!
De retour à Ciné Brunch, mon nom est Jim Boulay et comme chaque semaine, je suis en compagnie, j'ai déjà dit au début de l'émission, mais je vous le redis, de Mélina Lopez-Aldo, de François Genet et aujourd'hui de Julie Desmarais qui va nous parler de musique, de films dans 5, 6, 7, 8, 9 minutes, quelque chose là-dedans, j'ai aucune idée. Dans quelques minutes, on va dire ça comme ça. Donc, on va parler de films, de musique de films de super-héros parce qu'on est dans la thématique. François vient de nous parler de Shazam, etc., etc. Mais moi, je veux vous parler d'un film que j'ai vu, un film français qui n'est pas du tout un film de super-héros. S'il y a quelque chose, ce serait plutôt l'inverse même, je vous dirais. Donc, un film qui s'appelle Tanguy. Le retour.
Ouais, Tanguy en soi, c'est quasiment un super-héros.
Ben, ouais! Ça dépend. C'est quoi
le. D'une époque, le super-héros d'une époque.
Ouais, le super-héros, exactement. Donc, oui, vous l'aurez compris, donc c'est basé sur. C'est la suite d'un film culte. Comédie française, donc réalisée par Étienne Châtillier, coécrite par Laurent Chouchan. Et bon, c'est les deux mêmes qui ont fait le film original Tanguy, qui date de 2001. Mais ils ont aussi travaillé ensemble sur Agathe Cléry en 2008 et La confiance règne en 2004. C'est évidemment la suite, donc, comme je disais tout à l'heure, du film Tanguy de 2001. Et les acteurs aussi sont les mêmes. Donc, Éric Berger dans le rôle de Tanguy, ses parents Sabine Azéma et André Dussolier. Bref, on retrouve toute la troupe, la ribambelle du premier film. Et évidemment, avant d'en dire plus, allons écouter tout de suite la bande-annonce.
Bon. Oui? Tanguy?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là?
Il m'a quitté.
Oh mon pauvre chéri!
C'est toute ma vie qui s'écroule.
Tiens, ils sont tout chauds.
Excusez-moi, je me sens pas très bien. Je crois que je vais me coucher.
Je croyais que t'étais parti te coucher hier soir.
Mais Bruno m'a appelé. Il a insisté pour que je le rejoigne dans un bar. C'était nul.
C'était nul. Jusqu'à 6h du matin.
C'est qu'il va mieux.
Exactement, il va mieux. Beaucoup mieux que ce qu'il prétend.
Il aurait pu prendre un appart depuis longtemps, hein.
L'essentiel, c'est qu'il dégage.
Alors voilà, vous aurez... Si vous avez vu le premier film, évidemment, vous ne serez pas trop en terrain inconnu avec ce film-là. C'était la bande-annonce du film Tanguy, Le Retour. Et avant de vous parler du film Tanguy, Le Retour, je dois vous parler du film Tanguy de 2001 parce que c'est la suite. Oui. Et donc, rapidement, Ben, l'histoire de Tanguy, c'est l'histoire d'un jeune adulte qui s'intéresse, disons, et qui enseigne en même temps la littérature à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Donc, il y enseigne le chinois et directement la littérature chinoise. Il aime beaucoup les femmes, il est poli, cultivé, très serviable, mais surtout, à 28 ans, il habite toujours chez ses parents. Et un jour, ben, ses parents décident qu'ils en ont assez et mettent tout en œuvre pour s'en débarrasser. Mais rien à faire, Tanguy est bien dans la maison de ses parents, dans son foyer familial. Bref, depuis ce temps-là, quand on entend quelqu'un vous dire qu'il y a un Tanguy à la maison, c'est à cause du film. Pour être tout à fait honnête, j'ai vu le premier film et j'avais trouvé ça amusant, mais pas tant que ça non plus. Je veux dire, oui, c'est intéressant, tout ça. L'idée était quand même intéressante, mais j'ai jamais trouvé ça si drôle que ça par rapport à d'autres films français, à mon goût. C'est très exagéré, tout ça, mais bon, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Divertissement intéressant quand même. À la fin du film de 2001, le premier film Tanguy, ben, il finit par quitter le nid familial, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, et aller s'établir donc, chez la famille de sa nouvelle femme en Chine, en fait, sa nouvelle femme chinoise, et dans une maison multigénérationnelle, donc, où il est le bienvenu chez les parents de sa nouvelle femme. Et là, maintenant, Tanguy, le retour, vous comprendrez que c'est la suite de ce film-là. Tout le monde a bien vieilli. On retrouve les parents de Tanguy dans leur luxueuse demeure, alors qu'ils profitent bien de leur retraite. Tout va bien jusqu'au jour où leur fils Tanguy sonne à la porte en sanglotant. Vous l'avez entendu dans la bande-annonce. Sa femme l'a laissé et il vient vivre en France avec sa fille, qui a aussi été abandonnée par sa propre mère. Vous comprendrez qu'à partir de là, on tombe dans des vieilles chaussettes. J'ai pas besoin d'en dire plus pour l'histoire parce que ça se répète totalement sur le premier film. Dommage. Évidemment, on pouvait pas s'attendre à autre chose, mais bon, c'est ça. On n'a pas voulu prendre de risques dans ce film-là.
Est-ce qu'on a quand même le goût de le regarder?
Ben, ça dépend. Ça dépend, peut-être, peut-être pas, mais le problème, c'est un peu ça. C'est un peu que ça se répète trop à mon goût. Je trouve qu'on... Tu sais, on nous réutilise vraiment la même recette, mais la recette n'était pas si bonne que ça, à mon goût. Donc, c'était correct une fois. Bon. Et là, surtout, ça rend le film incroyablement prévisible. Parce qu'on sait très bien ce qui s'en vient tout au long. On est un peu dans l'anticipation, mais tu sais, c'est pas, il n'y a pas de surprise dans ce film-là. C'est une histoire, à mon goût, qui lève pas, malheureusement. Il y a des moments comiques qui font rire, évidemment. Là, ça demeure une comédie. Mais... j'ai préféré le dernier film de Franck Dubos, qui est pourtant beaucoup moins recherché dans le style que ce dernier film-là de Tanguy. Heureusement, on apprend à connaître la fille de Tanguy, donc ça, c'est intéressant. Ça ajoute quelque chose d'un peu plus frais, mais en même temps, on n'est pas dans une performance exceptionnelle non plus. Donc, c'est intéressant parce que, bon, on voit des codes génétiques, mais une espèce de... bon, le cycle perpétuel de... voilà. Donc ça, c'est intéressant.
Le tanguisme
qui se transmet peut-être d'une façon ou d'une autre.
Penses-tu que ça l'ouvre la porte pour un troisième avec la fille?
Non, j'en douterais. Je pense qu'ils vont arrêter ça là. Honnêtement, je vois pas d'opportunité là, de continuer ça. Puis ils sont rendus tellement vieux aussi dans le film que...
Wow. Ils sont rendus tellement
vieux. Ben ouais, je pense qu'ils ont même vieilli pas mal plus.
Et on les salue par la famille.
Alors voilà, oui, le père a un problème de prostate. Bref, c'est ça, on en est rendu plus loin. En tout cas, bref, au niveau technique, en fait, c'est quand même correct en général, mais... ils ont eu un problème avec le son, c'est sûr, quand ils ont fait ce film-là. Des fois, on dirait qu'il y a du bruit ambiant qui devrait être filtré ou qui ne devrait pas être là, qui me laisse croire, en fait, qu'ils ont perdu du son de certains micros principaux et qu'ils ont dû utiliser des micros de secours. Oh. Donc, il y a toujours des micros de secours dans un tournage. Oh, oui. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé à certains endroits. Le son, il ne marche pas. Donc, il y a quelque chose, on a essayé de l'arranger en post-production, mais c'est pas à la hauteur.
C'est pas un film ou juste quelques scènes?
Non, quelques moments. Okay. Puis même, il y a des moments dans la bande-annonce, si vous écoutez attentivement, les yeux fermés, vous allez l'entendre. Même les extraits utilisés dans la bande-annonce ont le problème. Okay. Bref, si vous avez beaucoup aimé Tanguy ou si vous avez un ado de 40 ans qui ne veut pas décoller de chez vous, vous allez sans doute aimer ce film-là et aimer le voir avec lui, peut-être. Mais sinon... ben, c'est ça, oui, c'est ça.
Ça avait été ça pas mal, la réception dans le temps.
C'est ça, oui, c'est certain. Surtout dans les grandes villes, en Paris, puis dans les grandes villes françaises où c'est extrêmement cher, le coût de la vie. Ouais. Sinon, allez voir ça comme un divertissement. Ça, c'est léger, ça ne vous changera pas votre vie. Je donne un 7 sur 10 au film. Je me suis dit, on m'a dit que je donnais trop de 7. Ça m'encourage, c'est ça. Pas les contrarier,
et voilà.
Disait François Pérusse. Donc, je donne un 7 sur 10 parce que ce n'est pas un mauvais film, mais c'est un peu insipide et prévisible. Donc, malheureusement,
est-ce qu'on conseille plus
ça lève
à
pas
des gens qui l'ont vu le premier film ou qui n'ont pas vu le premier film?
Ah oui, non, définitivement. Ça, ça, allez pas voir ça, vous n'avez pas vu le premier, honnêtement. Ah non, là, non. Ben, vous n'aurez pas d'intérêt. Là. C'est, ah c'est, okay. c'est des clins d'œil au premier.
OK, parce qu'il aurait pu dire le, si
les punch,
on répète...
Les punchs sont meilleurs dans le premier, donc...
Ouais, ouais. Puis le son est meilleur.
Aucun intérêt. Okay. Effectivement. Non, sans blague. Si vous voulez aller voir ça, je sais pas s'il est sur Netflix, le vieux, ou quelque chose. En tout cas, il doit sûrement moyen de retrouver le Tanguy original.
Ouais.
Mais non, si vous avez pas vu Tanguy, allez pas voir Tanguy le retour, là, ça sert absolument rien. Là, ça serait une perte de temps totale. Donc voilà, 7 sur 10 pour ce film. Donc voilà. Il manque juste les applaudissements.
Oui.
Bonjour, Gilles Desmarais.
Bonjour.
Bonjour. Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit du thème de Universal Pictures, mais évidemment, une version, longue version, donc, oui, pour l'édition spéciale du 100e anniversaire. Alors, pour montrer à quel point, justement, on reconnaît les musiques qu'on entend quand on va au cinéma, ou tu sais, c'est comme quand on va, mettons, Star Wars, quand on entend le...
Oui, le Fox.
On entend le Twin Fox, Century Fox. Puis dans notre tête, ça part après la musique de Star Wars.
On est habitué, c'est ça. Oui.
Donc voilà. Et on va jouer un petit jeu. On va entendre un autre extrait de musique et le but, c'est de deviner c'est quoi le lien entre les deux.
Mmh. Oh! On y va tout de suite.
Vas-y.
Moi, je le sais.
Qui autour de la table sait de quoi il s'agissait? Là,
dans les deux, il y avait des instruments de musique, déjà à la base.
Je pense que c'était les mêmes.
Mais je pense que ce qui peut vous aider, c'est le thème de la chronique de Julie.
Ça doit être des super-héros.
Marvel, oui. C'est le Marvel Studios Fanfare qu'on vient d'entendre. Et en fait, ce qui relie les deux musiques qu'on vient d'entendre, c'est le compositeur qui est Brian Tyler. Oh. Donc, Brian Tyler, qui a fait ses premières armes en 1997, sur la scène musicale des films. Depuis, il a fait plusieurs trames sonores, là, au moins une quarantaine. Films, jeux vidéo, donc jeux vidéo Call of Duty, Modern Warfare 3, Assassin's Creed 4, Black Flag. Il a fait des courts-métrages, il a fait des téléséries. Bref, il a fait beaucoup de choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il a fait la musique de Thor. Il a fait la musique donc, de Thor, Le Monde des Ténèbres, la musique de Avengers, L'Ère d'Ultron et de Iron Man 3, dont je vous parle aujourd'hui.
Mmh.
Oui. Alors, Iron Man 3, dans le fond, je l'ai vu au cinéma et quand je suis sortie de là, j'ai couru chez mon disquaire acheter la trame sonore.
Elle était déjà sortie?
Oui, était... oh oui, ça
sort
avant.
Ça sort avant.
J'avais tellement aimé l'ambiance sonore de ce film-là que donc c'est ça. Pour la petite histoire, Iron Man 1 avait été la musique avait été faite par Ramin Djawadi et le 2 John Debney. Mais là, on parle évidemment de la musique du film et non du soundtrack. La différence entre soundtrack et score en anglais. Mm-hmm. Ouais. Donc
le soundtrack ou la trame originale, ça peut être des pièces de différents artistes. Là.
En fait, c'est ça. C'est que dans Iron Man 2, on avait un soundtrack qui était un disque composé entièrement de pièces d'AC/DC. puis on avait le music score qui était composé, lui, par John Debney. Donc voilà, c'était complètement différent.
C'était Debney pour ramener ça.
C'était Debney pas mal. Oui. C'est un concept aussi qu'on a pu voir avec Forrest Gump. Dans le fond, on avait un disque double de toutes les musiques. Non, pas ici.
Okay. je me suis collé. Je pense que j'ai dormi des bouts dans
c'était
Forrest
Gump. C'était plus Jean-Cécile et compagnie. Mais c'est ça. Puis on avait Alan Silvestri qui avait fait donc le disque, la musique orchestrale à côté. Donc, Iron Man 3, qui est sorti en 2013. Donc, quand on écoute l'album, les pièces ne sont pas dans l'ordre du film. Donc, essayez pas de suivre le film à travers ça. Donc, toute la trame sonore est organisée autour du thème d'Iron Man 3, qui est la première pièce de l'album. Plusieurs des pièces suivantes reprennent ce thème-là sous diverses formes selon l'atmosphère. Alors, on écoute un extrait.
Bien, oui, c'est
mouvant. C'est
exactement. En fait,
là,
tu viens de me voler tout le closing de mon... Je sais, c'est une trame sonore épique. Mais oui, effectivement, c'est épique. On entend tout l'héroïsme du personnage.
C'est clairement la musique pour à mettre qu'on va s'entraîner, là. Clairement, sur le tapis roulant, tu mets ça, c'est...
Moi, je l'écoute à toutes les sauces, là, en travaillant, en marchant dans la rue, au volant.
Ouais, c'est une musique pour voiture aussi, là.
c'est
road tune qu'il appelle, là. Oui, quand même.
Attention aux excès de vitesse.
Oui, c'est ça, c'est le danger.
Oui, parce que là, tu voles au volant. Oui, donc, ce qui est vraiment intéressant dans cette pièce-là, on a les timbales qui sont vraiment puissantes, là, qui amènent comme un roulement de tonnerre quasiment. On retrouve le bruit métallique là, de Iron Man, le pong. Là, donc, qu'on entendait aussi dans la trame sonore du 2 et probablement du 1 aussi. Donc, qui est une marque, ça fait bien du sens d'avoir un but métallique pour Iron Man. Hein? Puis, il y a des belles additions avec la chorale qui soutient justement la trame sonore puis qui apporte une touche de grandiose puis un peu de mythique aussi. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette trame sonore-là, les corps sont à l'honneur, ce qu'on n'a pas souvent. Puis souvent, les corps, c'est comme, on les entend un peu d'une manière un peu douce, comment je pourrais dire, donc ça s'impose pas, c'est pas puissant, mais là, vraiment, ça déménage. C'est vraiment bien. Une chose aussi qui est très intéressante de cette trame sonore-là et qui a été, qu'est-ce qui a été souligné aussi dans beaucoup de
De chronique.
Dans beaucoup de chroniques, exactement, dont j'ai pris connaissance, c'est que il y avait un excellent équilibre dans la trame sonore entre le côté orchestral et le côté électronique, donc qu'on dit remote control en anglais. On avait reproché, en fait, aux deux premières trames sonores d'être très remote control, donc il y en avait beaucoup d'électronique, puis finalement, c'était un peu... c'était pas assez profond, finalement, comme musique. Justement, on perdait le côté épique,
peut-être. Ouais, des vrais instruments, puis ce sentiment-là de...
C'est
de,
ça.
De,
puis dans le 2, il y avait justement beaucoup d'ACDC, beaucoup de guitares électriques, mais justement, on perdait le woomph, tu sais, du côté orchestral. Donc, on va entendre un bout de War Machine où est-ce qu'on entend bien le mix entre les deux.
C'est vrai que c'est intéressant le mélange électro, pas électro.
Oui, non, c'est le fun. Puis justement, c'est vraiment ce qui donne une belle dimension supplémentaire à cette trame sonore-là, parce que moi, j'en écoute vraiment beaucoup. Là, puis souvent, c'est juste orchestral ou on a beaucoup, beaucoup d'électro, mais là, c'est très bien mélangé ensemble. En fait, on n'a pas l'impression justement que c'est deux morceaux qui collent pas. Là, c'est vraiment, c'est super uniforme, ça coule bien, c'est vraiment bon. Puis ça soutient super bien le propos du film aussi, le côté héroïque de l'orchestre, tout ça, avec le côté techno de Iron Man, c'est parfait.
Ben oui.
Donc, qu'est-ce qui était un autre point, le thème d'amour entre Tony et Pepper, très léger, très aérien, super sensible. Puis c'est quand même drôle parce que la première fois qu'on l'entend, ils sont en train de chicaner. Donc, ils sont en train d'avoir une petite dispute là, sur le fait qu'ils passent beaucoup trop de temps avec ses différents habits de Iron Man. Et elle aimerait bien ça qu'il fasse
s'occupe de elle
sorte
un peu,
de sa cave. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et on peut écouter un petit extrait de ça où est-ce qu'on entend justement le côté plus sensible de Iron Man.
J'ai presque versé une larme.
Mm-hmm. Oui, mais on entend très bien justement Iron Man qui s'excuse de jouer avec ses robots. Et qui fait comme « Ah, OK, peut-être que je vais te pardonner. » Mais bref, c'est comme ça que ça commence, cette musique-là. Mais c'est le fun, on la retrouve à différents endroits dans le film, notamment quand Iron Man se retrouve justement isolé. Et la musique qui s'appelle comme ça.
La toune!
Isolation! Et justement, quand il se retrouve isolé, donc loin de tout et loin de tous, il doit refaire ses forces pour retourner attaquer le méchant qui l'a vraiment sorti de sa maison, c'est le cas de dire. Elle a été détruite. Donc, voilà. Et il pense à sa copine. Et son thème revient. Donc, excellent. Le méchant mandarin n'a pas vraiment de thème à lui. Donc, on utilise encore le thème de Iron Man, mais on va ajouter des instruments différents qui vont venir donner une twist un peu plus orientale parce que donc il vient de l'Orient, le méchant. Et ça, c'est vraiment un fait intéressant parce que souvent, dans les films, justement, chaque personnage, le gentil, le méchant, ils ont leur thème. Mm-hmm. Et c'est ça, mais ça se démarque de ce côté-là. Finalement, mot de la fin, superbe trame sonore, pleine d'énergie, de suspense, d'émotion. Et puis, je vous dirais que pour la fin, il faut absolument s'attarder à écouter Can You Dig? Begit, donc qui est la musique qui passe au générique. C'est un classique de musique rétro de films de super-héros, donc avec les gros cuivres, là, le gros... on peut penser justement à...
Austin Powers.
Austin Powers, les vieux James Bond, oui. Même les Batman, le vieux Batman, là, donc c'est ça. Ça nous fait... ça nous rappelle des bons souvenirs, puis en même temps, c'est ça, c'est très entraînant. Et moi, ça, c'est la musique au volant, là. C'est vraiment drôle. C'est dangereux, c'est là. On écoute ça.
Ah, wow. c'est
même,
génial,
quoi, ça vous fait penser quand vous écoutez ça?
Toute
jeunesse, non, mais...
ta jeunesse, oui, c'est ça.
Mais non, c'est pas fini encore, ça.
Batman, les petites affaires où qu'on fait ça dans le vide avec des bulles, puis Pouf-Pow, les Invincibles aussi, à la limite, les petits bonhommes animés, là, Incredibles. Là.
Incredibles. Moi, je dirais Spider-Man, la vieille série des années 60, où il y avait souvent des parties, et là, Peter Parker faisait le party avec Mary Jane, puis la musique, c'était ça. Il mettait un bon record, là.
Oui.
C'était le bon temps.
C'est comme tu l'as bien souligné, hors d'onde, ce qui est le fun aussi, c'est que Brian Tyler reprend le thème de Iron Man avec une sauce complètement différente. Donc, c'est vraiment le fun de voir comment on peut jouer comme ça avec un thème, exprimer différentes émotions.
C'est génial.
Et oui, c'est super.
Donc, merci beaucoup, Julie. C'était fort intéressant, cette critique. C'est pas cette critique, mais cette chronique sur la musique de super-héros. Il y aura peut-être la possibilité de parler de la prochaine fois.
En fait, on va visiter le côté sombre des super-héros la prochaine fois qu'on sera ensemble.
On va fermer la lumière.
On va fermer. Excellent. Merci beaucoup, Julie. Merci, Mina. Merci, François. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous cette semaine pour l'émission Cinébrunch, votre magazine de cinéma qui s'assume. La semaine prochaine, on se retrouve à la même heure, donc le samedi à 11h, en rediffusion le mardi à la même heure ou sur notre site web cinébrunch.com. Et vous pouvez nous écouter aussi sur votre application balado de votre téléphone intelligent en tout temps. Et venez nous faire un petit coucou sur Facebook si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions. Mais pas de plaintes, on prend pas les plaintes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous. À la semaine prochaine.
Bye.
Bonne semaine.